Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Inter.
La New Wave. Tu vois, je ne saurais même pas te dire quel groupe ou quoi, la New Wave. Je dirais les années 80. Ah bah, Depeche Mode, ouais. Ouais, ouais.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen. Une heure chaque après-midi pour décrypter un phénomène dans l'air du temps, sauf désormais, vous le savez, le premier vendredi du mois où Zoom Zoom Zen passe en mode vintage. Avec une production idoine, évidemment. À la découverte donc d'un phénomène du temps jadis, et aujourd'hui, c'est avec stupeur que j'ai réalisé que les années 80 étaient déjà, aux yeux des jeunes, le temps jadis. Voilà pourquoi on va zoomer sur un phénomène musical dont vous avez tous entendu parler, mais qu'à mon avis, peu d'entre vous seraient capables de définir précisément, la New Wave. Une émission voulue et pensée par celui qui a vécu la New Wave aux premières loges, dans les toilettes du Why Not à Potoncombo, où plus d'une fois les vigiles l'ont retrouvé une seringue d'héroïne plantée dans le bras, juste en dessous de son tatouage Joy Division Forever. Cyril, la carrière qui, je vous l'annonce, pour m'en excuser d'avance, me fera prononcer dans cette émission des phrases invraisemblables, en tout cas dans ma bouche, telles que par exemple « La New Wave, c'est l'énergie live du punk avec la minutie et la composition de la Cold Wave comme l'a pratiqué Kraftwerk ». Alors entendons-nous, j'aime découvrir des nouvelles choses, mais de là à prononcer des phrases entières dont je ne comprends pas un mot, où va cette émission? Cyril m'a-t-il pris pour Philippe Manœuvre?
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Vous avez un truc dans la bouche, Cyril?
Pas du tout, je vous aide.
Très bien. Heureusement, pour nous raconter la New Wave, on a la chance d'accueillir en studio aujourd'hui une figure légendaire de la New Wave Made in France, le guitariste et cofondateur du groupe mythique Taxi Girl, qu'on va entendre tout de suite. Mirwais, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Alors Mirwais, à la fin des années 70, vous avez cofondé donc le groupe Taxi Girl avec notamment Daniel Darc et Laurent Sinclair. Vous êtes le producteur de deux albums de Madonna, musique 4. C'est ce que j'ai dit à Cyril en préparant l'émission, il m'a dit non, il y en a deux qu'il a produit entièrement et d'autres c'est des collaborations.
Non, le dernier.
Une connerie, première connerie de Cyril.
Il y a 9 titres à moi quand même.
Voilà, de 9 titres. Effectivement, 9 titres c'est pas mal sur l'album, Cyril.
Singles et tout ça.
Première précision importante. Vous êtes donc le producteur de 4 albums de Madonna, des albums dont on dit qu'ils ont relancé sa carrière. Est-ce que ça, c'est vrai?
Oh, ça, c'est...
En fait, pas les modestes. Presse.
Non, honnêtement, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai fait Music avec elle, elle sortait de cet album qui est extrêmement vendu, qui s'appelle Ray of Light, mais Music... On a fait le passage électro, en fait.
Bah oui, ça a été une bascule importante. Ça, ouais. Et vous êtes aussi écrivain, Mirwais. Vous êtes l'auteur d'un roman, Les Tout-Puissants, chez Séguier, oui. en 2022. Et vous venez de publier, je l'ai ici, Taxi Girl, toujours chez Séguier, qui raconte la fulgurante carrière de votre groupe, Taxi Girl. Alors, vous allez nous raconter, évidemment, Taxi Girl, nous raconter l'aventure de la New Wave. Juste le temps de vous présenter deux jeunes immensément excités cet après-midi, puisqu'en effet, ne vous fiez pas à ce qu'ils font dans cette émission, ça on s'en fout. Ils ne pratiquent le journalisme que temporairement, par dépit, pour payer les factures, car comme vous, ce sont des artistes. Quentin, lui, Manon Mariani, bonjour.
Bonjour à tous. J'ai honte d'avance.
Oui,
en
vous
fait.
Avez honte d'avance, j'ai envie de dire, vous avez raison. Oh puisqu'on ne va pas tourner autour du pot. Bonjour, évidemment que pour parler New Wave, il n'y avait pas mieux que vous, Mirwais, mais je dois confesser que votre venue aujourd'hui sert un autre objectif, relancer les carrières musicales de Manon et Quentin, aujourd'hui au point mort.
D'un côté, la vôtre n'a pas existé.
C'est vrai. D'un côté, vous avez donc Manon, étoile filante de l'électropop parisienne, dont le single composé par un vague tonton sous Poppers, Caresse du désir, n'a pas rencontrer le succès qu'il méritait.
C'est si loin, tout s'efface. Oh,
mais j'en ai pas honte de ce son arrêté.
Un petit côté Lemon Incest.
Parce qu'il y a Mirwais, ils ont forcément
m'affiché.
Elle assume. Alors c'est un petit côté Lemon Incest qui va pas au bout de la démarche, mais il y a du potentiel. Peut-être un peu d'autotune pour que ça chante plus juste. Et puis il y a Quentin. Il y a Quentin et son groupe de rock Intérieur Nuit, finaliste du festival Tremplin Emergenza en 2012. Le seul rocker français qui a pensé se faire un nom en reprenant du Corinne Charby.
Alors, tout le monde que c'était ma tante à l'époque.
Alors, évidemment, il y a du boulot, mais je me dis qu'en reprenant tout ça en main, en y apportant votre touche, vous avez bien sauvé la carrière de Madonna. Pourquoi pas celle des enfants, finalement?
Mais je suis prêt à écouter.
c'est déjà pas mal.
Vous sortez pas obligé, mais merci.
Manon, le nombre de fois on m'a dit qu'on voulait même pas écouter.
Ça aussi. Manon, en attendant
Moi, je suis à l'anglaise.
Ah oui, vous croyez au...
vous écoutez, après vous répondez plus.
Vous ghostez.
Manon, en attendant que Mireille se penche sur Caresse du désir, vous nous livrerez tout à l'heure votre célèbre veille sanitaire, l'analyse en temps réel des réseaux sociaux au programme aujourd'hui.
Eh bien, une plongée dans les soirées de la Gen Z aujourd'hui. Et oui, dans les années 80, la jeunesse dansait sur Taxi Girl, mais en 2024, eh bien, elle danse sur quoi? Eh bien, sur de la bonne techno, dans des rave parties qui sont redevenues hype, smartphone à la main, prête à dégainer sa vidéo TikTok, la jeunesse s'en va en rave dans ma veille sanitaire.
Face votre veille, c'est bien d'insister sur le mar. On sent que ça vous tient à cœur. Face à vous,
il n'y a personne d'autre.
Face à vous, il est comme un petit fou. Il a d'ailleurs déjà appelé tous ses potes pour leur annoncer que Mireille allait produire le prochain album d'Intérieur Nuit. Ce en quoi il s'avance peut-être un peu car il ne connaît pas encore vos tarifs. Mais c'est cet optimisme béat, cet enthousiasme forcené qui lui permet d'aller tous les jours dans la rue, déranger des passants en s'imaginant qu'ils sont contents de le voir.
Oui, mais ils sont contents de me voir.
Vous êtes sûr de ça?
Bien sûr. Je suis resté dans mon quartier d'ailleurs pour ce sujet. J'ai descendu la rue Custine du 18e arrondissement. J'ai passé Anvers, Pigalle et ce quartier du nord du 9e qui respire encore la musique à Paris avec de nombreux magasins. D'ailleurs, j'ai trouvé une vieille guitare pour notre future collaboration ensemble, Mireille.
La New Wave. Dans un monde parallèle.
Oui, voilà.
Je suis d'accord.
Alors, j'ai tendu la perche.
D'ailleurs, vous cartonnez même dans un monde parallèle.
La New Wave complètement à la rue, ce sera dans la prochaine demi-heure. Remettez-vous, Mathieu.
Oui, le succès dans un monde parallèle d'Intérieur Nuit en production avec Mireille, c'est énorme. Vers 16h30, pour une fois qu'on a une star dans Zoom Zoom Zen, on fera exceptionnellement l'impasse sur le quiz pour poser encore plus de questions à Mireille. En fin d'émission, c'est Karim Duval qui nous rejoindra juste avant, évidemment, un petit bœuf improvisé. Manon au clavier, Mireille à la guitare et Quentin au chant. C'est lui aussi, ça. Je sais que vous n'aviez pas vécu de choc musical comme ça depuis longtemps, mais...
On dirait quand même beaucoup Charles Aznavour.
Je travaille avec les meilleurs. Mireille, s'il y a un son, un mot, une idée pour définir ce qu'est la New Wave pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît absolument rien, ça serait quoi pour vous?
New Wave, c'est un mot valise. Ça commence en 76, c'est terminé, disons... ça a été magnifié par MTV 84. Mais il y a un son, c'est Dépêche Mode, en fait.
C'est Dépêche Mode.
Je pense que c'est ça qui a fait la synthèse rock, guitare, synthé, un peu cold wave. Parce qu'il y a plein de courants à l'intérieur. Parce que c'est vraiment un mot valise.
Pourquoi plus personne, enfin, à part les gens pointus comme vous, ne parlent de la cold wave? C'est quoi la cold wave?
La cold wave, c'était très cold, c'était très froid.
C'est pas commercial du tout.
Puis ça s'est terminé avec le suicide de Ian Curtis, de Joy Division. Et donc ça a mis un petit froid quand même.
Effectivement, et ça a jeté un autre froid.
Et donc toute cette scène est passée sur autre chose. Succession the Benchies, par exemple, qui venait du punk. Sont passés au gothic rock, électronique. Après, il y a eu Killing Joke. Il y a eu plein de groupes, en fait. Mais c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses, en fait, la New Wave.
On va revenir sur toute cette histoire et voir tout ce que ça englobe. Face à vous, Mireille, s'il est l'un de vos plus grands fans, je dirais qu'après Bono et Denis son boucher, vous êtes son artiste préféré. C'est vraiment un compliment dans ma bouche. Cyril Lacarrière, ça fait une semaine que vous criez partout. On va recevoir Mireille. On y est. Comment vous vous sentez?
Je suis très content.
Vous avez l'air serein.
Vous avec moi.
Alors, inspiré à fond, ne pensez pas que le producteur de Madonna vous écoute et dites-nous avec vos mots à vous, la New Wave, d'où ça sort?
Eh bien évidemment, vous racontez l'histoire de la New Wave devant Mireille, on va dire que c'est accepter une forme d'expérience. Donc la New Wave, d'où ça sort? De la fin des années 70 et de cette idée que le rock n'est pas mort, oui à l'époque certains le disaient déjà. La New Wave, c'est la nouvelle vague appliquée à la musique, du coup c'est peut-être une sorte de François Truffaut qui est avec nous aujourd'hui, ou Jean-Luc Godard au choix. Pour vous situer dans l'espace-temps de la musique, la New Wave arrive après le punk, et entre les deux, il y a certes un héritage, mais aussi de grosses différences. Déjà en termes de fringues. Les punks, c'était la glorification d'un style agressif, des clous, des crêtes, une certaine expression de la violence aussi qu'on entendait d'ailleurs dans la musique. Les artistes de New Wave changent un peu ça, ils soignent leur tenue, elles sont plus élaborées, les musiciens collaborent avec des créateurs, et puis il y a ce que vous appelez, Mireille, l'attitude. Il suffit de regarder la couverture de votre livre pour comprendre de quoi je parle, cinq mecs en train de poser et qui se la racontent un peu. Et puis...
très sympathique non plus.
Et puis, il y a une différence sonore. Le punk, c'était ça. Et la New Wave, c'est plutôt ça. The Cure, Play for Today. Et c'est aussi ça. Why I understand, she said I was controlled again. Joy Division, on a commencé à en parler, She's Lost Control, le groupe emblématique de Ian Curtis avant qu'il ne se suicide à seulement 23 ans. On peut aussi citer, vous l'avez fait, Mian Ways, Depeche Mode, Cocteau Twins, Dead Can Dance, des groupes qui avaient envie de rompre avec le rock pur et dur, ces groupes qui cherchaient aussi à s'éloigner de la pop calibrée pour la radio. Et puis en France, la New Wave, ça a été ça. Votre groupe, Mian Ways, Taxi Girl, un groupe à la trajectoire d'une météorite, ça a duré 6 ans, vous allez nous en parler. La New Wave, pareil, puisque les historiens de la musique s'accordent pour dire qu'elle disparaît après 1985, pourquoi, avec quel héritage. Alors, justement, que reste-t-il de la New Wave 40 ans après? Quels artistes a-t-elle inspiré? Qui s'en revendique? Est-ce qu'elle peut revenir à la mode? Pourquoi Taxi Girl a-t-il marqué la musique française en si peu de temps? C'est quoi cette attitude de la New Wave? Et sinon, est-ce qu'elle est sympa, Madonna, dans la vraie vie? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Ça passe, c'est pas le terme. J'emploierais. Ah ouais. elle est intéressante. Oui, oui.
Pardon, on s'en fout de la musique, Bertin. Non, pardon, mais c'est intéressant ce que vous dites. Madonna, c'est pas quelqu'un de rieur dans la vie, c'est quelqu'un de.
Si, ce qu'elle veut. Off.
Mais dans le travail, c'est.
Pas dans le studio.
Ah, dans le studio, là, elle est.
Non, après, dans le studio, elle est très concentrée. Bah, comme moi, ouais. Je suis pas très rigolo. Ouais.
Hein, oh, bah, voilà pour
l'instant, depuis le début. Dans le studio, c'est. Mais elle est très, en anglais on dit driven, ouais. Elle est très orientée sur son truc. Mais elle a raison, elle lâche rien du tout.
C'est quoi cette histoire d'attitude dont nous a parlé Cyril dans la New Wave, c'est important? Et c'est
bien
quoi?
Sûr, puisque si dans ce cas-là, on ne peut pas se mettre en concurrence avec Stravinsky ou le jazz, ou le free jazz, ou Coltrane, ou Davis, c'est impossible musicalement. Donc il fallait rajouter quelque chose. C'est pour ça que Elvis a rajouté dans les années 50, les Beatles ou les Stones, peu importe. Hein. C'est-à-dire la New Wave, à chaque décennie, il y a toujours un nouveau circuit, je dirais.
Mais ce qui est intéressant pour des néophytes de l'extérieur, c'est de comprendre comment ça se passe, quel est le processus créatif. Vous dites ce que vous venez de me dire là, c'est-à-dire il faut qu'on crée autre chose, il faut qu'on se démarque, il faut qu'on invente quelque chose, ou ça se fait quelque part spontanément avec une bande de potes.
C'est toujours spontané, et c'est surtout ce que j'écris dans le livre, dans Taxi Girl, c'est que je voulais m'approcher vraiment de la jeunesse d'un groupe. Pourquoi on démarre un groupe? Comment ça se passe? Et nous, on a eu la chance ou la malchance de démarrer... Au moment de la photo, j'avais 19 ans encore, je crois. Et quand on a commencé Taxi Girl, on avait 17 ans. Donc c'était très jeune, on était post-adolescent. Donc cette période-là n'est jamais tellement expliquée dans les bios, parce que dans les bios, bon, c'est-à-dire chaque bio, c'est bon, j'ai démarré, mes parents, je les adore ou je les déteste. Ensuite, je me suis mis contre, j'ai appris la guitare. Tout le monde m'a chié dessus, et puis à la fin, on a triomphé, et maintenant, je suis une star. C'est pas du tout ça, hein, le livre.
Non.
Pas du tout.
Il n'y avait pas de plan de carrière, vous
savez. Le
chaos.
Un chaos. C'est-à-dire, le chaos original, de toute façon, c'est un peu comme une étincelle de vie.
Alors,
c'est-à-dire, comment la vie est née sur Terre, on ne sait pas. Bah, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéressait, moi.
Et c'est quoi le Big Bang de Taxi Girl?
Un groupe. Je pense, c'est, curieusement, ce que j'explique, et parfois des gens ne comprennent pas, c'est les attitudes antinomiques. C'est-à-dire, quand je dis on se détestait tous, en fait, c'est faux. On s'aimait, mais on était complètement rivaux. Et un groupe de rock ne peut être que comme ça, un vrai. C'est-à-dire, bon, je dis une phrase dans le livre, je dis, bon, tu t'invites pas le samedi soir pour boire du rooibos et manger du 4 quarts. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas ça, un groupe de rock originel pour moi. Peut-être aujourd'hui ils le font, mais pour moi, je pense pas que dans le rap ou dans le hip-hop, ils font ça. Et donc, ça s'est transposé ailleurs, d'ailleurs, cette violence originelle.
Vous parlez de chaos originel, alors, il faut acheter le livre pour le découvrir, mais est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'au tout début, vous aviez l'objectif, quand vous fondez ce groupe, de conquérir le monde, de conquérir les États-Unis, ou il n'y avait pas vraiment de plan de carrière?
Pas du tout, il n'y avait aucun plan de carrière, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun retour... Il y avait aucun retour narcissique, je dirais, ultra poussé comme dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ensuite, fallait voir l'époque, hein. C'est-à-dire, bon, je l'explique un peu. Je cite juste Laurent. On vient du lycée Balzac, qui est donc dans le 18e arrondissement. Enfin, sauf moi. Et Laurent, il sortait quand même avec Joël Aubron, qui a fait Action Directe, qui était dans Action Directe. Hein. Il n'est pas sorti longtemps, mais c'est pour expliquer en fait les gens qui se mélangeaient comme ça. Donc Daniel, il était à la Fédération anarchiste. Il voulait faire de la photo au départ. Mais on cherchait tous un moyen d'expression. Donc moi, c'était la musique depuis l'âge de mes 12 ans, mais Daniel, par exemple, c'était pas ça. C'était un peu par hasard. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, l'art est liquidé, l'expression artistique ne l'est pas. Voilà.
Ah bah voilà, on va terminer cette première partie sur cette belle phrase. C'est un grand moment dans Zoom Zoom Zen, puisque mis à part toutes les fois où on a écouté Intérieur Nuit en présence de Quentin, c'est la première fois qu'on écoute un titre en présence de son compositeur. Voici Mannequin, qui était sur votre premier album Cherchez le garçon, sorti en 80, Taxi Girl, sur Inter.
Zoom Zen, version vintage.
Oh, oh, oui, oh oui, parler de la New Wave avec Mirwais, c'est comme parler théâtre avec Molière. On n'est pas peu fiers cet après-midi, surtout Cyril Lacarrière qui est resté en studio avec nous exceptionnellement. C'est la première fois en 335 émissions que vous êtes resté, Cyril. Vous êtes tellement fan, vous êtes tellement ému.
Non, je suis tout content d'assister à cette émission. Oh, 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 en général, je suis en régie et je vous hurle dans les oreilles.
Alors, la New Wave, ça se passait surtout à New York et à Londres au départ. Comment vous, Mirwais, vous en avez entendu parler déjà à la base?
Moi, ce que j'explique par rapport à la New Wave, c'est que en fait, c'était un ensemble de plusieurs tribus musicales, Cold Wave, Art Rock aussi anglais, des groupes comme Magazine, le post-punk et tout ça. Et à un moment donné, ça s'est cristallisé commercialement. La New Wave, c'est un terme commercial qui s'est imposé avec le lancement, le décollage de U2 et de Police en même temps, qui ne sont pas forcément des groupes. Police vient du punk, mais ils n'étaient pas réellement punk, c'est-à-dire. Et U2 non plus, mais le décollage de ces deux groupes ont instauré le terme New Wave, qui ensuite a drainé dans le sillage et les Dépêche Mode et tout ça. C'est-à-dire, mais ça a été vraiment un engouement, je dirais, commercial. Il fallait bien trouver un terme. Et très honnêtement, je trouve ça pas mal. Comme oui, terme New Wave.
On est d'accord.
La référence à Nouvelle Vague.
Ouais, c'est bien.
Art, machin, donc c'est bien. C'est...
Mais vous dites que ça a été, que c'est un terme, un mot un peu valise.
Ouais.
Mais néanmoins, ça décrit un courant qui n'a pas été du tout façonné par le marketing. Parce qu'aujourd'hui,
si, parce qu'au moment du décollage, non, c'est-à-dire en fait, non. Allez, le décollage de Police, c'est 81, le vrai décollage. Mmh. Ensuite, MTV a tout changé. C'est MTV qui, en 84, est arrivé à changer, à inventer la culture teen. Mmh. Parce qu'elle elle a ça toujours existé, la culture teen, mais la culture teenager telle qu'on la connaissait, on l'a connue après dans les années 80. Et on n'a jamais bougé. Parce que quand les gens disent « ça revient tout le temps », moi je dis « non, les années 80 n'ont jamais été évacuées ». Si on regarde bien, ça y est, on commence à voir du vintage 90s.
Ouais, oui.
Mais si on regarde bien, les années 80 sont beaucoup plus puissants dans les émissions de télé, dans les radios, le son. On prend même The Weeknd, il y a un de ces titres là qui cartonne. C'est une sorte de mélange de et de je sais pas quoi, de synth-pop. Parce que en fait, ça a créé la synth-pop. c'est-à-dire ce qu'on appelle la pop synthétique. Et nous, c'était ça. Nous, on est qualifiés comme ça parce que les Anglais, ils adorent mettre des termes. Hein.
Ah oui, ben ça, je vois ça. Oui.
Dark synth, synth pop et tout ça, quoi. Donc voilà. Quoi.
Très compliqué. Juste, Quentin.
Le son, à quel moment vous avez dit ce son-là est différent? C'est quoi? C'est un effet sur une guitare? C'est une réverb sur la voix?
Non, c'est-à-dire, nous, Taxi Girl, c'était, on arrivait trop tard, en 78. Le punk était acté. Tout ce qu'on aimait, Anarchy in the UK, tout ça. Mmh. Et donc, du coup, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, et il y avait Kraftwerk qui est arrivé. Et Mad Machine et Trans-Europe Express, et surtout Mad Machine, c'était quand même une révolution extraordinaire. Parce qu'il y avait l'attitude, justement, le concept. C'est pour ça que on s'habillait en rouge aussi, lié à Mad Machine aussi, de Kraftwerk. Donc on s'est dit, bon, on aime les Stooges, le Velvet, les Doors, on va mélanger ça avec l'électronique, en fait, et on n'a pas été les seuls non plus. Sauf que nous, on a eu un petit handicap, parce que, franchement, moi je veux pas du tout cracher sur la France, mais on a mis beaucoup de temps pour que les gens comprennent.
C'était plus difficile. Ouais, c'était plus
difficile. Ouais, alors qu'en Angleterre, l'art rock, magazine, ils mélangeaient déjà tout ça.
Est-ce qu'en Angleterre, vous serez devenu des stars internationales?
Honnêtement, je pense que oui, parce que je l'explique dans le livre. On a signé sur Virgin UK et les gens nous adoraient. Notre tourneur de l'époque, c'est un gars qui s'appelait John Giddins, qui est devenu un des plus grands tourneurs du monde, qui nous adorait, qui nous faisait jouer en première partie de XTC, Stranglers. On allait régulièrement à Londres. Il suffisait juste d'insister un peu, bon, de pas avoir un manager qui nous a arnaqué et peut-être. être plus solide mentalement, mais bon, voilà, il y a des groupes qui sont faits pour le succès, et d'autres pas.
Est-ce que la New Wave était politique? Le punk voulait renverser le système, en tout cas, ce qu'il proclamait. Est-ce que la New Wave, elle cherchait quoi? Elle cherchait quelque chose?
Bah, s'il faut faire une explication, je dirais, très brève et très simple, psychanalytique, disons que le punk a été un cri qui s'est retourné contre lui-même et cure, on voit bien, hein, c'est dépressif, hein, c'est-à-dire parce que quand vous êtes agressé, souvent vous retournez la dépression à la place de l'exprimer comme un cri. Le punk a été un cri parce que bon, on n'en pouvait plus des années 70, il y a un problème quoi dans les années 70, et la New Wave, ça a été une introversion. Donc, la New Wave, le Cold Wave, et ensuite, ça a redécollé avec Bono, enfin, avec un message plus positif, hein, avec U2, etc. Quoi.
Et si avoir une carrière discographique de seulement 8 ans était la marque des plus grands groupes? Taxi Girl, les Beatles, Intérieur Nuit, le chiffre 8 revient toujours. Un peu comme Quentin, quand vous changez de trottoir pour éviter de répondre à ses questions, mais hop, il vous suit de l'autre côté. Quentin, chaque après-midi, vous faites réagir les passants à notre mot du jour. Et là, alors vous n'êtes pas allé très loin, puisque vous êtes allé parler New Wave dans les rues du 18e. En gros, vous êtes levé tard, vous êtes allé à côté de chez vous. Quoi.
C'est un quartier qui vit à mon rythme, vous voyez ce que je veux dire, qui se lève tard, qui bosse peu, voire pas, si on s'en tient à la bienveillance de l'équipe de Zoom Zoom Zen. On se lève tard.
Guy Moquet.
Ouais, voilà. C'est très tard.
Quand je suis arrivé de France, Guy Moquet, rue d'Anraimond.
Ah oui, voilà. Je vois bien.
J'ai vécu rue d'Anraimond aussi.
J'ai à l'école maternelle rue d'Anraimond.
Ouais, bon, là, je suis rue Poulet, voilà. Et c'est bien avant 11h.
C'est cité dans mon livre.
Rue Poulet, bien avant 11h, que je rencontre deux lycéennes, Lilou et Ayla. Voyons si à 17 ans, notre mot vintage leur parle.
La New Wave. Non.
C'est quoi la New Wave?
Aucune idée.
Un mouvement?
Si je vous dis The Cure.
Non.
Vous connaissez pas?
Non. Pas du tout.
Depeche Mode?
Non.
Jamais entendu parler?
Ah non.
Ah oui, on prend forcément tous un petit coup de vieux.
Ça veut rien dire.
Avec le goût,
vous regardez ma tête, personne ne me connaît, et puis vous mettez un morceau de Madonna, comme musique. Il y a bien 60% des gens qui connaissent dans le monde.
Mais petit décalage générationnel avec nos groupes de dinosaures, mais la curiosité aidant, elles sortent leur téléphone.
Ça va?
J'écouterais pas ça, mais ça va.
Ouais, c'est pas trop mon style non plus.
Ouais. C'est quoi votre style? Vous écoutez quoi, vous?
Le rap. Plus du rap. Bah moi en ce moment c'est le nouvel album de Luther.
Ouais.
La meilleure musique c'est U-Squad.
Vas-y, envoie.
J'ai mis du temps à cap texter des merguez. Et des réponses, j'en ai pas trouvé certaines. Mais dans
quel bourbier je suis tombé? On est loin. On est loin de la New Wave. Bien que l'électro et les nappes numériques soient aussi quand même des héritages du genre. J'arrête ce mec maintenant. Cheveux en arrière, veste en daim, lunettes fumées. Alexis vient d'avoir 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Je suis scénariste, enfin auteur-réalisateur.
Ok. C'est quoi votre dernière création?
Une série qui s'appelle Déter. Et une autre qui s'appelle Parlement, saison 4. La New Wave. Tu vois, je ne saurais même pas te dire quel groupe ou quoi, de New Wave. Ah bah Dépêche Mode. Ouais. Moi Dépêche Mode, enfin ce genre de musique là, c'est le genre de musique que j'écoute quand je suis un peu énervé. Enfin que j'essaie de faire quelque chose de mon énervement en tout cas. Il y a un truc très vintage là-dedans. Alors bizarrement à l'époque ça devait être très analogue, très électronique, ça devait, on devait déjà se dire ah c'est la fin des vrais instruments. Et aujourd'hui, on voit ça comme un truc très matériel.
Je profite de son œil de professionnel pour regarder un clip de Dépêche Mode de l'époque.
Là, c'est du 4 tiers. Moi, j'ai souvenir d'un clip où ils sont tous en gros plan, en noir et blanc. Là, tu vois. Et ils font des airs très sérieux, très graves.
Et les coupes de cheveux aussi.
Les coupes de cheveux, non, mais ouais. Mélange de schoolboy et de biker un peu, tu vois. On va dire c'est des bons élèves qui mettent des vestes en cuir. Donc tu vois, c'est post-punk, c'est pas des mecs qui sont non plus dans la libération complète de leur énergie et tout. Rien que vestimentairement, ils le disent, quoi.
C'est assez juste, on ne casse pas tout avec la New Wave, c'est de la révolte douce.
Je demande... je peux préciser, oui. Vous avez déjà vu la tête de Dave Gahan et ils sont passés par l'héroïne, hein, quand même.
Mais sur ce clip où ils sont jeunes...
Ils sont chargés toute leur vie. Hein,
oui, mais sur ce clip où ils sont jeunes, ils ont des têtes
c'était avant.
Un petit peu gentilles, c'est vrai. C'est vrai. Je lui demande si à 30 ans, il éprouve déjà une forme de nostalgie.
Ouais, je suis plutôt nostalgique du côté pop sombre, en fait. Tu vois ? Des trucs populaires, mais avec voilà, personnel Jésus, quoi, de dire que l'être humain n'est pas forcément totalement bon, ces choses-là. Est-ce que tu imagines une chanson aujourd'hui aussi sombre et aussi pop ? On n'a pas l'équivalent, tu vois.
Je longe la rue de Clignancourt maintenant et j'arrive dans un disquaire où je fais la connaissance d'un passionné, Benoît, la quarantaine.
La New Wave, années 80. Mais pas que années 80, ça me fait penser que c'est pas le premier mouvement musical à s'appeler comme ça. Bossa Nova, ça va aussi dire Nouvelle Vague, New Wave, en portugais brésilien. Et donc, ça m'inspire que la musique est un éternel recommencement. Il y a eu plein d'autres nouvelles vagues musicales depuis.
Je lui dis que pour cette émission, notre invité, c'est vous, c'est Mirwais.
Oui, bien sûr.
Tu vas qui c'est ?
Mirwais Amadzai, bien sûr. Ouais. Taxi Girl. Et puis après, plus tard, Renaissance avec production de deux albums de Madonna, plus son album solo... production, pochette rose fluo et noire, grosse claque pour moi à l'époque et du coup un personnage emblématique de la New Wave mais pas que.
Nous allons au bac à vinyle où il est inscrit au marqueur noir New Wave, post-punk, il fait défiler les 33 tours des groupes mythiques.
Des classiques finalement, je pourrais pas vous dire de quel album viennent leurs tubes, par contre s'ils passent à la radio ou au supermarché, on se met à les chanter. Pour moi la New Wave ça me fait penser à ça en fait, c'est pas forcément au cœur de ma culture musicale, mais c'est forcément à la périphérie de plein de choses que j'aime aujourd'hui et ça a influencé beaucoup de choses, notamment dans ce qui est la musique électronique, qui est plutôt mon centre d'intérêt. C'est très très influent finalement.
Et au milieu de cela, une pochette bleutée, un peu psychédélique, le groupe Cocteau Twins, c'est sans doute l'un de mes morceaux préférés, Bluebeard dans Zoom Zoom Zen.
Bluebeard, un de mes morceaux préférés. C'est fou comme on réécrit l'histoire quand on est impressionné par l'invité. Désolé Quentin, mais Mirwais doit savoir que toute la journée dans l'open space, c'est pas les Cocteau Twins que vous nous chantez, hein.
En ce temps-là, c'était Paris.
C'est plutôt c'est Pierre Bachelet.
Voilà. C'est la même époque, hein.
Oui, c'est la même époque, effectivement. Mais voilà.
Vous étiez toujours pas né, quand même.
La réalité. J'aurais préféré que vous mettiez marionnettiste.
Marionnettiste,
absolument. J'adore.
Ah si, vous adorez ça
De Bachelet.
De Bachelet, oui. Bien sûr.
Ouais, ça, on l'a pas en stock. Vous l'avez jamais chanté, en tout cas,
non,
Quentin.
Non, c'est vrai. Ah, bon.
Alors, on vient d'entendre les gens qui s'expriment sur la New Wave. Cocteau Twins, il y a débat, c'est New Wave, c'est post-punk, c'est quoi?
Là, ce que j'entendais, c'était country, hein, plus. C'est, personnellement. Enfin, en tout cas. Non, si, c'est dans la New Wave, mais je répète, c'est un mot valise. Ben oui. Moi, je dirais.
C'est pas emblématique.
Je dirais la chose suivante. Dans le monde de la playlist. Post-2016, puisque c'est à ce moment-là que Spotify, que ce qu'on appelle les DSP, ont pris le pouvoir. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur. C'est-à-dire, c'est juste ce que vous écoutez au moment où vous l'écoutez. Et donc, ce que je veux dire, bon, c'est que Marx parlait il parlait du capital. Enfin, bon, vous connaissez le capital de Marx. Il disait que le capital accumulé des morts vampirise les vivants. Si vous transposez ça sur le back catalogue, c'est-à-dire... le capital du bac catalogue vampirise la création, c'est tout. Et c'est pour ça que peut-être vous n'êtes pas complètement courant, parce que bon, vous n'êtes pas complètement insider.
Ça, mais en fait,
la plupart des majors du disque favorisent la musique d'avant sur les playlists. Hein. Je parle sur les DSP parce qu'il n'y a rien à faire.
Parce que oui,
il y a rien à produire. Il y a pas de promo, il y a rien.
Ça peut juste
donc il y a beaucoup plus d'argent avec le passé qu'avec le futur.
Bah, ils doivent quand même vous payer tous les artistes.
Oui, ils payent, mais c'est. Ben alors c'est encore un autre problème. C'est la rémunération. Spotify c'est super, mais la rémunération.
Vous êtes pas bien payé vous sur Spotify?
Mais allez dire à tout le monde. Il y a pas que moi. Même McCartney, tous, ils se plaignent. Ouais.
Ces jeunes de 17 ans qu'ont jamais entendu parler des Cure, mais qui connaissent le rappeur Luther. Vous écoutez du rap? Est-ce que vous avez un album qui vous a marqué dernièrement?
Non, parce que je pense que le rap est devenu un poil trop idéologique, à mon goût. En France, hein, je veux dire. En Amérique, c'est pas idéologique, c'est juste une bande de gars qui veulent faire du blé, qui veulent sortir du ghetto, pour moi. Hein. Alors, bien sûr, on prend toujours l'exemple de Kendrick Lamar. Hein. Mmh, j'ose dire que c'est arrivé trop tard.
Mais musicalement, vous trouvez ça intéressant ?
Non, c'est bien, mais ce que je veux dire, il y a plein de trucs bien. L'attitude, elle est où ? C'est-à-dire, l'attitude, c'est toujours les mêmes mecs qui arrivent avec des colliers, des trucs. Alors, les plus intelligents, comme Kendrick, ils proposent un peu autre chose. Mais c'est pas suffisant pour changer le monde. Hein. Enfin,
attendez, je vous arrête là-dessus. C'est vachement intéressant. Le rap, aujourd'hui, c'est le numéro un des ventes un peu partout dans le monde. Est-ce que vous, en tant que producteur de génie, c'est Madonna qui dit que vous êtes un génie, elle a bien raison, est-ce que vous n'avez pas envie, justement, d'aller faire quelque chose dans le rap pour le transcender? Parce que tout le monde écoute ça.
C'est maillé, c'est managé.
Ah, et on ne peut pas rentrer dedans. Personne ne vous appellerait dans le...
Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas le problème. C'est que c'est staffé. Et, c'est que, en fait, le problème du rap, c'est qu'il joue le tiercé de la veille. C'est-à-dire, quand il y a un numéro 1, bah, ils vont le refaire 10 fois, et puis une fois que c'est épuisé, 10 fois, c'est devenu un biz, hein, c'est un business. Hein.
C'est pas pareil pour tous les genres, ça ? Ça s'applique que au rap ?
Non, parce que nous, notre génération, alors moi je parle de ma génération, jusqu'à la génération Nirvana. Parce que la mort de Kurt Cobain, au-delà de sa mort, ça a une signification. C'est que tous les courants étaient généreux. Généreux, c'est-à-dire on passait la main. On passait la main, c'est-à-dire on n'en voulait pas trop.
Il n'y avait pas de compétition.
Il y avait la compétition, mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire c'est qu'on laissait rentrer. On laissait rentrer tous les types de cours. Enfin, les artistes authentiques, hein, pas les commerciaux. Alors qu'à partir mid-90, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'essor du rap, mais pas que. Hein, c'est-à-dire le rap, hip-hop, c'est, pour moi, le rap, le hip-hop... Le R&B, c'est pas la même chose. C'est devenu une histoire de business, hein, c'est tout. Mais je critique pas, hein, je dis juste, je décris un état de fait. Hein, c'est une évidence. Hein,
C'était quoi, les amis, la New Wave ? Est-elle vraiment morte ou bien a-t-elle des descendants ? Peut-elle renaître de ses cendres comme Intérieure Nuit à un mariage en août dernier ? On continue d'en parler avec notre invité prestige cet après-midi, Mir Weiss, légendaire fondateur du groupe Taxi Girl et producteur tout aussi légendaire de Madonna. 4 albums et pas 2, comme le disait Mauvaise Langue. On va parler notamment d'un instrument qui est devenu central avec la New Wave, le synthétiseur. Instrument qui a été central aussi dans la vie de Cyril Lacarrière, vous l'entendez, puisque c'est sur un bon tant pis qu'il avait passé l'option musique au bac, où il avait choisi sans surprise la Java de Broadway.
Oh non.
Cyril qui m'a dit, on pourrait l'écouter sur la longueur, j'avais été bon ce jour-là, j'avais eu 12. Oh. Alors c'est vrai que c'est pas mal, l'esprit Sardou est bien là, mais comme on a la chance de faire une émission sur la New Wave avec Mir Weiss, peut-être qu'on pourrait écouter autre chose, Manon.
Je pense que c'est l'un de mes sons préférés de Madonna, sur l'un de mes albums préférés, je ne dis pas ça parce que Mir Weiss est à côté et qu'il l'a produit, Hollywood, présent sur l'album American Life, chanson devenue culte aussi pour une génération grâce à la cérémonie des MTV Awards en 2003. Madonna arrive telle une reine sur scène entre Britney Spears et Christina Aguilera. 3 des plus grandes stars de la pop sont réunies. S'ensuit l'un des moments les plus hauts de la pop culture, le baiser entre Madonna et Britney. On écoute Madonna Hollywood. Shine your light. Cause you're in Hollywood.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, version vintage.
Oh oui. Mirwais, vous êtes avec nous, vous sortez Taxi Girl, votre livre, vous racontez la New Wave, vous racontez l'aventure Taxi Girl. J'avais envie qu'on parle du synthé, cet instrument qui est devenu emblématique pour la New Wave. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec le synthé? Pourquoi vous êtes emparé de cet instrument?
Moi, la première fois que j'ai vu un synthé, donc c'était au moment où on a enregistré Mannequin, notre premier single.
On l'a entendu tout à l'heure, oui.
C'était une découverte. Moi, je voulais avoir ça, quoi, chez moi. Parce que on écoutait aussi Kraftwerk. Et c'est surtout, il n'y avait plus besoin d'aller dans un studio avec un équipement ultra lourd. Et on pouvait composer avec ce qu'on appelle les séquenceurs où on peut programmer et tout ça, quoi. Et puis c'est des sons. On pouvait faire des sons ultra futuristes, quoi. Donc c'était super intéressant de mélanger ça avec la composition et avec le son de l'époque, en fait. Hein.
Vous étiez le guitariste,
ouais,
du groupe. Par la suite, et par exemple quand vous avez produit, je sais pas, Madonna, sur quoi vous travaillez? La base, le début?
Ordinateur.
Uniquement, c'est plus que sur ordinateur. Vous partez pas d'un instrument pour...
À l'époque de Madonna, j'enregistrais parfois les guitares. Oui, non, d'ailleurs, sur Music, par exemple, les guitares acoustiques, c'est moi qui les joue.
Ah oui,
Oui, oui, oui, c'est moi qui les joue. Mais maintenant, je programme. C'est-à-dire, c'est tellement réaliste. Aujourd'hui, on est dans la falsification. C'est-à-dire, mais la bonne falsification, c'est que si vous savez vous servir de ce qu'on appelle des plugs, et on n'est même pas dans l'intelligence artificielle, il n'y a plus de différence, voire c'est mieux. Donc,
vous n'avez pas peur de l'intelligence artificielle dans la musique pour les créateurs?
Non, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme la télé. Quand la télé est arrivée, bon, tout dépend de l'usage que vous en faites, hein, c'est-à-dire, ou de la radio. C'est sûr, si vous faites les discours d'Adolf Hitler, c'est pas un très bon usage de la radio. Mais si vous faites, par exemple, votre émission, c'est super.
J'aime cette comparaison. Ouais, c'est le plus beau compliment qu'on ait fait. C'est mieux que les discours d'Adolf Hitler.
Non, j'ai pas dit que c'est mieux. J'ai dit il y a du compris. Bon et mauvais usage.
Effectivement. Pour revenir à la New Wave, c'est aussi une époque qu'on associe beaucoup à la drogue. Vous vous en cachez pas dans le livre.
Non,
effectivement, beaucoup
tout,
de drogue. Qui a emporté d'ailleurs un des membres du groupe. Comment vous êtes passé à travers les gouttes? Parce que j'imagine qu'à l'époque, on voulait tout essayer.
Je pense que j'ai fait ce qu'on appelle un bad trip d'acide, de LSD. Et ça m'a un peu fragilisé, peut-être l'étais-je, hein, déjà, parce que moi j'avais commencé un peu avant les autres à me défoncer, donc shit, éther, amphétamine, enfin bon, tout.
Ah oui, vous avez été un pionnier plutôt, et ensuite vous avez su arrêter au bon moment.
Et moi j'ai échappé parce que bon, j'ai fait un bad trip, mais c'est pas uniquement la raison. Il y a plusieurs raisons. Il y a trois raisons, en fait. C'est parce que j'étais peut-être fragilisé mentalement. Ensuite, j'avais un groupe que j'adorais et moi, c'était le rêve de ma vie d'avoir un groupe comme ça.
Vous n'avez pas gâché ça, quoi.
Ouais, je voulais pas gâcher ça. Et puis, j'avais en toile de fond, j'en parle un peu dans, il y avait la guerre d'Afghanistan. Moi, j'étais réfugié politique, hein, jusqu'en 2009. je pouvais plus voyager nulle part, les dernières années. C'est pour ça que j'ai pris la nationalité française, mais disons que la guerre d'Afghanistan me mettait en face de la réalité, puisque j'avais mon père qui était un des cadres de la résistance, qui allait là-bas, qui revenait, et j'avais beaucoup de gens qui débarquaient chez mes parents. C'était des massacres. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, les massacres, c'est pareil. C'était pareil en pire. Donc ça balance un peu les choses, quoi.
Est-ce que, concernant Taxi Girl, vous avez des regrets? On l'a dit tout à l'heure, vous n'avez pas eu la carrière à l'international que vous auriez pu avoir. Dans l'Est républicain, en 2021, vous déclariez ceci avec beaucoup d'honnêteté, je trouve. On a failli réussir au niveau international, mais on était trop drogués et ingérables. Je pense sincèrement que nous étions un des meilleurs groupes du monde, pas pour la musique, mais pour l'attitude. On revient encore à cette fameuse attitude. Il y a des regrets quand vous regardez ces années.
Non, dans la vie, il ne faut jamais regretter, puisque de toute façon... Je préfère avoir eu la vie que j'ai eue par la suite que... De toute façon, je parle souvent d'angle mort. Je pense que Taxi Girl, on était un angle mort de la musique moderne française. Voilà. Et on était là pour ensemencer.
Pourquoi un angle mort? Parce que vous pensez qu'il n'y avait pas suffisamment de public en France? En tout cas, pour vous, c'était plutôt niche?
Non, mais c'est, on était trop weirdos, trop bizarro. C'est trop bizarro, bizarro.
Vous étiez bizarre.
Non, mais j'explique dans le livre. À un moment donné, Daniel, vous savez, à l'époque, Daniel il y avait les trois jours l'évaluation pour faire le service militaire. Ah oui. Tout le monde était terrifié par ça. Et Daniel, il se défonce. Enfin, il dort pas pendant 75 heures. Et il arrive en guenille. Et le gars, lui, il dit, c'est, je tiens de la bouche de Daniel, hein. Il me dit, oh ouais, toi, même pas besoin, on les connaît, les gens comme toi. Avec ton air sournois, là, on veut pas de toi, salut, t'es reformé. Donc, il avait même pas besoin de se défoncer. Donc, j'imagine que quand on débarquait quelque part, ou Daniel, ou tout ça, les gens voyaient très bien, on n'était pas fait pour devenir, je sais pas, d'autres groupes. Et c'est là où il n'y a jamais eu de regret, hein. Franchement. C'est...
Vous écoutez France Inter, et Mireille est avec nous jusqu'à 17h. Lui aussi, on se demande comment il a fait pour ne pas tomber dans l'héros, peut-être en se spécialisant dans l'humour d'entreprise. Karim Duval arrive. Mais d'abord, Manon, même au cœur d'une émission vintage, où par définition on regarde dans le rétro, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder de l'avant, en vitesse 1, cet après-midi, direction les soirées de la Gen Z.
Une banane accrochée au cou, une bouteille d'eau dans la main, des chaussures de rando aux pieds, du maquillage un peu loufoque sur le visage. C'est l'attirail type de la teufeuse de 20 ans aujourd'hui. Et où elle va? Eh ben, elle va là-bas. Oubliez les clubs UP parisiens, les karaokés un peu cringe, ça c'est pour les vieux, les trentenaires hein, comme moi. La Gen Z, elle va en rave. Sur TikTok, elle se filme dans des endroits sombres, musique techno à fond jusqu'au petit matin. Il y en a beaucoup à Berlin, évidemment, capitale européenne des soirées underground, mais aussi à Londres et en France. Alors, il y a deux types de rave que l'on voit sur les réseaux, celles qui sont organisées par des collectifs dans des lieux où c'est autorisé, des raves soft, entre guillemets, et celle évidemment totalement illégale qui rappelle la fin des années 80 et l'émergence de ce mouvement. À l'époque, les raves avaient lieu dans des hangars et des entrepôts abandonnés. Y aller, c'était un acte de rébellion pour une jeunesse en quête de sensations. Et une partie de la Gen Z a repris ses codes 40 ans plus tard. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok de raves illégales dans des catacombes parisiennes, par exemple, mais aussi dans des endroits totalement inconnus où le lieu n'est évidemment pas cité.
Donc c'est pas le retour des années 2000, en fait, c'est carrément le retour des années 80.
Oui, mais les smartphones en plus, hein, toujours. Et le contraste est quand même assez drôle, car il y a 40 ans, le but était justement de pas se faire repérer quand on allait en rave. Mais aujourd'hui, ça a bien changé.
Come shopping with me for rave clothes in Amsterdam. It's only right to start off the shopping trip with a trip to the vintage shops. And I don't think you'd be finding leather chaps in the UK.
Là, par exemple, vous entendez la TikTokeuse Festival Style qui monte ses looks ultra pop pour aller en rave party. Maquillage rose flashy, crop top, natte en pagaille. Ses vidéos cartonnent, elle a plus de 10 millions de likes sur son compte. Pour elle, la rave, c'est plus qu'une soirée, c'est un moyen de s'exprimer qui passe aussi par ce qu'elle porte. Elle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui sur les réseaux la raving esthétique, l'esthétique rave. Sur Pinterest, le réseau où on va chercher ses inspirations mode, c'est un véritable succès. Les termes house music outfit ont connu une augmentation de 185% l'année dernière et Berlin rave fashion plus 250%. Un univers loin des stéréotypes des raves d'avant où c'était forcément un peu synonyme de drogue et d'anarchie. Là, on est plutôt sur des petites influenceuses toutes mignonnes qui vont faire la fête avec leurs potes.
J'ai plus des rêves, quoi. Et niveau musique, c'est toujours de la techno ?
Ouais, évidemment, la scène techno fait un grand retour ces dernières années sur TikTok. Beaucoup de DJ postent leurs remix ou leurs sets en soirée, en rave ou en festival. Les hashtags DJ Talk, DJ Remix, DJ Electro comptent des millions de vues. Parmi les remix qui cartonnent, je voulais vous faire entendre ça.
C'est Shlomo ?
Pas vraiment, non.
Alors, c'est la très aussi un peu.
Un remix techno de Satisfaction de Benny Benassi, sorti en 2002, ça remonte, hein. Et qui est devenu l'une des musiques les plus virales sur TikTok cette année. On l'entend aujourd'hui dans des soirées underground où les jeunes sont tous mains en l'air, lunettes de soleil sur le nez, en train de danser. Car même si les codes ont changé, que les réseaux sont arrivés, que les smartphones sont partout, c'est toujours cool de voir la jeunesse kiffer ces soirées. C'est aussi une réponse post-Covid, une envie de profiter de leur liberté et de la partager avec le monde entier.
Merci Manon Mariani. Alors le temps qu'on installe un petit synthé et que Quentin se chauffe la voix en vue du petit concert qui va ponctuer cette émission, je vous propose qu'on écoute un troisième titre de notre invité. Voici Miss You, Mireille, qui fait le plein de droits d'auteur cet après-midi sur Inter. C'est cadeau, c'est pour nous, ça fait plaisir. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you.
howling in the sleep. You've been starring in my dreams. Lord, I miss you, child. I've been waiting in the hall. I've been waiting on your call. And the phone rings. It's just some friends of mine who said, hey, what's the matter, man? We gon' come round 12 with some Puerto Rican girls. It's just time to meet you.
Oh, mais bien sûr qu'il est toujours là, ce petit jingle en mode vintage. Zoom Zoom Zen continue. Et alors qu'on zoome sur la New Wave avec son porte-drapeau français, Mirwais, il est l'heure d'accueillir celui qui est à la fois batteur, chanteur, guitariste, bassiste, joueur de triangle et accessoirement humoriste dans son spectacle Entropie, actuellement à Paris, en tournée dans toute la France. Bonjour Karim Duval.
Les amis, avant de parler New Wave, je tiens à apprendre quelque chose à la France entière. Avant de s'appeler New York s'appelait Angoulême. Voilà, ma chronique pourrait s'arrêter là. Mic drop, je pourrais laisser tomber mon micro et partir, sauf qu'il est fixé à une tige. Alors je m'explique, c'est le navigateur florentin Jean de Verrazan qui, en l'honneur de François Ier, alors comte d'Angoulême, a découvert et nommé le site actuel de New York, la Nouvelle Angoulême, qui est devenue Angoulême parce qu'il se passe tellement rien à Angoulême, en dehors de la BD, que la Nouvelle ou l'Ancienne ou la Future Angoulême, bah, c'est juste Angoulême. Et ça a fait Nouvelle Angoulême, New York, New York. Pareil, Nouvelle-Orléans, New Orleans, New Orleans, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bon, j'ai passé trop de temps sur la ligne 9 pour venir ici, que c'est loin la maison de la radio, c'est tellement loin que même quand je suis ici, je dis je suis là-bas. Et donc, nouvelle vague, New Wave, New Wave. Matez l'intro de malade à cette chronique, s'il vous plaît. Hein. On dirait le solo de guitare de Van Halen qui ouvre Ain't Talking About Love, ou celui de Jimmy Page dans Heartbreaker. Désolé, je peux pas m'empêcher de jouer les Philippe Manœuvre dès que j'entends New Wave, parce que New Wave, pour moi, ça sonne chroniqueur des un rock. Hein. C'est gens qui parlent plus de musique qu'ils n'en jouent. Étant guitariste moi-même, moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué lorsque je suis arrivé en France depuis mon Maroc natal, la technicité du langage. Hein. Tu joues du Nirvana, t'es plutôt grunge, heavy metal, punk rock, anarcho-punk ou carrément hardcore. Bah, je joue de la guitare, quoi. Tu veux un Mediator? T'es plutôt extra light, medium, heavy, méga mou, demi-mou. Bah, j'aime bien quand ça envoie. Ah ouais, alors mate-moi, c'est 4 amplis à tube Ampeg SVT2 Pro branché sur des subwoofers 1/18 pour les graves. Ça, avec un effet flanger sur ma Gibson Les Paul standard, ça balance un son de l'enfer. Bon, après, faut avouer. Ouais, que moi, je ne faisais pas très peur à jouer Smells Like Teen Spirit sur ma guitare classique, mais je compensais par ma voix d'adolescent qui muait, hein, parce que quand je hurlais comme Kurt Cobain, c'était pas une mue de serpent, c'était un dépeçage de chihuahua à vif. Ouais, je suis trash. Enfin, trash ascendant Métagore à mi-chemin entre le rétro-chic Brandon Exley, chanteur de The Satanic Pigeons, et la sulfureuse Tessa Brownfield, batteuse des Chacals Lépreux. Bref, Mirwais, j'apprécie le fait que vous ayez écrit un roman parce qu'il raconte les choses en détail à des mecs incultes comme moi. Je vais être honnête, quand on m'a dit Mirwais, j'ai dit ah ouais, la meuf qui a réalisé Police et mon roi. Désolé.
Que je connais.
Et bien, pas si vite, bonjour. Ainsi qu'à Madonna. Alors, si je m'étais contenté, de quelques infos sur vous, hein, qui ont survécu à toutes ces années, j'aurais juste retenu que Taxi Girl aura été ce groupe freiné net dans son élan, comme ces mecs qui te disent ah, moi j'aurais dû être défenseur du PSG, ah, rupture des ligaments croisés, frère. Je suis magasinier chez Gifi. Donc oui, j'aime que vous racontiez votre histoire de l'intérieur sans dépeindre froidement un courant musical. Taxi Girl, c'était avant tout la musique, les excès, la drogue. Vous êtes allé loin dans la drogue quand même, Mirwais. Oui, hein, vous avez atteint un level.
Les autres surtout.
Non, mais vous déconseillez l'éther. Hein, je serais curieux.
L'éther, c'est pas bon pour les poumons. Hein. Je confirme.
Je serais curieux de connaître votre position sur le glyphosate. La drogue.
Je crois que ça va être réautorisé. parce que j'ai compris.
Non, mais c'est vrai, la drogue, le manque, la bagarre parfois. Hein, en témoigne cette blessure sur le front de Daniel Darc en couverture de votre livre.
Tous les jours, tous les samedis soirs, il y a des bagarres. Hein. Sauf que ça s'est déplacé, c'est plus tellement dans les groupes de rock, ça se passe.
Je propose qu'on arrête de lire une chronique, qu'on refasse l'émission.
Bah, vous me parlez, je vous réponds.
Vous avez bien raison.
C'est ça la New Wave, mon vieux.
C'est ça. Non, j'ai dit la drogue, le manque, la bagarre parfois. En témoigne cette blessure sur le front de Daniel Darc en couverture de votre livre. Et oui, l'IA générative pour retoucher la photo, c'était pas Midjourney, c'était le point de Pierre Wolfson dans ta gueule. Votre livre, qui est une ode à la loose magnifique. Hein, les vrais icos, ils sont pas dans le moi. Par exemple, moi, j'en sais quelque chose avec mon groupe du lycée au Maroc, The Tajins. Je me rappelle.
Pas mal, pas mal.
Pas mal, ça aurait pu cartonner. Je me rappelle.
Vous avez pensé à celui-là.
Eh ouais, mais on était créatifs. On s'était pris la tête avec le chanteur. Hein. J'avais crié « Bébé, dis, pourquoi t'as mangé toutes les céréales et tout ?» Et accidentellement, ce sevrage en avoine a inspiré le tube Dark Chocapic.
Oh non.
Un classique de notre courant musical, la No Wave. Ouais, on n'a pas fait, de vagues.
Qui existait. Ah merde.
C'était pas la même non-vague que nous.
Puis Chocapic, il y avait, je crois, un morceau de M qui s'appelait « J'ai le réflexe cornflex hein, ».
On aurait donc rien inventé.
Et voilà.
C'est clairement un échec, mon groupe de musique. Et vous non plus, finalement, vous n'avez pas fait de vague. Vous avez juste ouvert la voie à Indochine qui peut-être a su apporter ce petit truc en plus des synthés, à savoir l'art de chanter faux. Puis vous avez tracé votre route au-delà des vagues, surmonté les tempêtes, connu de nouveaux ports et continué à bosser, faire vos trucs tous les jours, sans chercher la gloire sur les quais que vous, vous accostez.
Si, si, chercher la gloire, mais vous ne pouvez pas me la donner. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, il faut rétablir la vérité.
Je disais,
une chute.
Je vais dire un truc faux, mais
je crois que c'est mieux que ta chute.
Sans chercher la gloire sur les quais où vous accostez, un artiste, un vrai.
Ouais, merci.
La chute précédente était meilleure.
Merci Karim Duval. On vous retrouve très bientôt, évidemment, dans Zoom Zoom Zen. Mirwais, nous, on se retrouve très bientôt en studio pour qu'après la carrière de Madonna, vous relanciez celle de Manon et Quentin. Vous avez donné votre accord, plus ou moins, au début d'émission.
Voilà. Rendez-vous bientôt.
D'ailleurs, outre Manon et Quentin, est-ce qu'il y a aujourd'hui, en 2024, un ou une artiste que vous aimeriez produire ?
Non, non. Je... Arrivé à mon stade, il faut que je m'occupe de moi-même. Là.
Ah oui.
Oui, oui.
On vous contacte.
Oui, oui, régulièrement, mais je suis pas intéressé. De toute façon, déjà à l'époque en 2000, on avait, c'est-à-dire, j'ai eu à la fois un succès critique avec mon album, parce que moi, mon album, ma carrière, disons que c'était ce qu'on appelle un arrested, un développement arrêté, contrarié, mais c'était pour la bonne cause puisque j'ai beaucoup aimé travailler avec Madonna. Je travaillais avec la plus grande star du monde à l'époque et moi-même j'avais la reconnaissance critique et j'avais les fonds, l'argent.
Difficile de faire mieux.
Donc pourquoi aller travailler pour les autres qui allait vous faire chier alors qu'avec Madonna ça se passait assez bien.
Merci encore d'avoir été avec nous cet après-midi. Mirwais, je rappelle votre livre Taxi Girl 1978-1981 disponible aux éditions Séguier. Merci à tous les amis Manon, Quentin, Cyril, celles sans qui rien ne serait possible, Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou en régie. À la technique aujourd'hui, on salue Gilles Gaillard. Quant à la réalisation, elle était assurée de main de maître mais d'oreilles hésitantes par celui qui, même à moitié sourd, ne nous a pas lâché cet après-midi, Étienne Martin. Puissent les antibiotiques venir à bout de cette vilaine otite. Demain, on se retrouve en best-of et dès 16h lundi, nous serons de retour en direct pour zoomer sur un thème qui vous donnera la pêche pour toute la semaine, la solitude urbaine.
Ouais.
Alors soyez là et d'ici là, bon week-end à l'écoute d'Inter.
C'est sûr.